VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Le nombre de cas de rougeole est en hausse dans toutes les régions du monde, à l'exception des Amériques, a déploré aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Selon Kate O'Brien, la directrice du département immunisation et vaccins à l'OMS, cette augmentation est imputable à un faible accès aux soins et aux fausses informations qui circulent sur les vaccins. Le nombre de cas recensés de janvier à juillet 2019 représente près de 3 fois celui de la même période en 2018. Les plus sévères épidémies ont eu lieu en République démocratique du Congo, à Madagascar et en Ukraine. Au Cameroun, selon un nouveau bilan donné par la Radio Nationale, au moins 17 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau qui a chaviré dimanche. Claire Morin-Gibou.
14 corps ont été repêchés mardi près de la péninsule de Bakassi, dans le sud-ouest du pays, a précisé la CRTV, la radio-télévision nationale. Au total, 111 survivants ont été secourus. Un bilan confirmé par les autorités locales, les recherches pour retrouver d'autres survivants ou extraire de nouveaux corps du navire retourné se sont poursuivies toute la journée d'hier. Prévu pour le transport de 75 personnes, le bateau était surchargé selon un communiqué du ministère de la Défense. Selon certains témoignages, il aurait transporté près de 200 passagers. L'incertitude demeure sur le nombre de personnes encore portées disparues. Le navire était parti dimanche de Calabar au Nigeria et devait accoster à Tiko, dans le sud-ouest du Cameroun. Selon le ministère de la Défense, le bateau en surcharge aurait heurté un banc de sable avant de se retourner. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les causes exactes de ce naufrage.
Fin de la grève des camionneurs au Mali, où mardi, plus de 1000 camions chargés de marchandises étaient bloqués à l'entrée de la capitale Bamako. Cela faisait 5 jours que les chauffeurs protestaient contre le mauvais état des routes dans le pays. Et Kabadou a joint à Kaye, Ibrahim Sori Diaba Kité, analyste sociopolitique.
Comme l'état de la route là s'est considérablement dégradé, il y a toujours des accidents sur cette route. Donc les jeunes de Kati ont mis un mouvement en place dénommé mouvement Sirako. Ils avaient fait déjà une première opération de escargot. Le gouvernement avait pris des engagements pour dire qu'ils allaient réparer cette route et que le financement était déjà acquis. Bon, le fait d'annonce a emporté sur l'essentiel. Les travaux ont commencé et quelques mois seulement après, les travaux se sont arrêtés. Brusquement, donc, le ministre du département concerné a été interpellé et à l'Assemblée, elle a affirmé très clairement que le financement est bouclé et que le blocage s'expliquait par juste un petit problème de décaissement.
Ce problème de décaissement a duré combien de temps?
On est en train d'aller vers le 8e ou le 9e mois, pour être précis. C'est ce qui a exaspéré la population, pas seulement à Kati, mais la population de Kati, la population de Djeni, Kolokani, jusqu'à Kaye. Parce que Kaye, on a bloqué le pont là-bas, et à Kati, c'est l'entrée de la ville de Kati qui a été bloquée. Donc aucun véhicule de transport ne pouvait passer, et même les véhicules personnels. Mais après, il y a eu un allègement de la mesure où on laissait passer les motocyclistes et les véhicules personnels. C'est l'exaspération qui a poussé les jeunes à se radicaliser et à mettre des barricades.
Quels sont les risques avec les barricades pour les personnes qui sont en train de se mobiliser? Qu'est-ce qu'elles encourent?
Alors pour moi, ils ne risquent rien, à part les pressions qu'on essaie de les faire ça et là. C'est une mobilisation populaire qui concerne l'ensemble du pays. Cette route est l'une des pistes de ravitaillement du pays et que pratiquement les recettes générées par cette route sont supérieures à toutes les autres groupe national au Mali. C'est l'une des sites de ravitaillement, en tout cas, qui contribue beaucoup à la caisse même de l'État. C'est le directeur de la SE, la sécurité d'État, qui est rentré dans la danse. Suite, ils se sont impliqués dans la chose parce qu'ils ont senti que la sécurité de l'État était en cause. Il y a un camp militaire là-bas. Pratiquement dans toutes les familles de Kati, il y a au moins un militaire ou un porteur d'uniforme. Donc, c'est très dangereux. Naturellement, il n'est pas compétent pour agir ici. Le compromis qui a été trouvé, c'est que les jeunes avaient demandé que le Premier ministre leur donne une date qui peut leur assurer que les travaux vont redémarrer pour qu'ils puissent lever les barrières. Cela n'a pas été, mais avec le directeur de la SEE, dit que les travaux vont redémarrer dans 3 semaines. Il a donné sa parole, il s'est engagé. Si les jeunes ne sont pas satisfaits dans 3 semaines, alors lui ne pourra pas les empêcher de faire ce qu'ils entendent faire.
Ibrahim Sori Diaba Kité, analyste sociopolitique au Mali. La crue subite d'une rivière au Maroc a submergé un terrain de football et a fait au moins 7 morts mercredi dans un village du sud du royaume chérifien. Les victimes sont un jeune de 17 ans et 6 hommes âgés qui assistaient à une partie de football dans le cadre d'un tournoi local. Les opérations de recherche ont permis de secourir un homme plus âgé qui a été blessé pendant cette inondation provoquée par de fortes averses. Les opérations se poursuivent pour retrouver une autre personne portée disparue selon la même source. La Tunisie va organiser 3 débats télévisés incluant les 26 candidats à l'élection présidentielle du 15 septembre, une première dans le pays et un événement rare dans le monde arabe. Les 3 débats d'une durée de 2h30 chacun auront lieu les 3 derniers jours de la campagne, le 11, le 12 et le 13 septembre. Ils vont donner à chacun un temps de parole équivalent et seront diffusés en direct sur la télévision nationale Wataniya et plusieurs chaînes locales. 26 candidats s'affrontent dans le cadre de ce scrutin en Tunisie. Conférence internationale sur le développement de l'Afrique à Yokohama au Japon. Tokyo met en garde contre un excès de dette en Afrique où la Chine accroît son influence. Les précisions d'Anna Besson.
Le premier ministre japonais Shinzo Abe a mis jeudi en garde l'Afrique contre des niveaux excessifs d'endettement. Il s'agit là d'une allusion aux importants investissements chinois sur le continent que certains accusent de fragiliser les finances d'États émergents. Monsieur Abe intervenait devant des dirigeants africains conviés à la TICAD, conférence internationale sur le développement du continent organisée à Yokohama. Le Premier ministre japonais en a profité pour faire la promotion de dispositifs de financement et d'assurance d'institutions de son pays soutenus par le gouvernement et qui privilégient, selon lui, des investissements de qualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les séparatistes yéménites ont de nouveau le contrôle de l'ensemble d'Aden, la grande ville du sud du pays, après des affrontements avec les forces gouvernementales qui l'avaient reprise la veille, ont annoncé aujourd'hui des sources des deux côtés. Une source de sécurité du gouvernement a confirmé cette information à l'AFP. Les forces gouvernementales se sont retirées d'Aden vers la province voisine d'Abidjan, a-t-elle précisé. Le gouvernement a établi à Aden son siège provisoire depuis la conquête de la capitale Sanaa par les rebelles houthis venus du nord. Les États-Unis doivent réintégrer l'accord international visant à limiter le programme nucléaire iranien et mettre fin au terrorisme économique contre Téhéran s'ils veulent mener des négociations, a souligné aujourd'hui le ministre iranien des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif. Les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont exacerbées depuis le retrait de Washington en 2018 de ce pacte suivi du rétablissement de lourdes sanctions américaines contre l'Iran. À l'occasion du sommet du G7 en France, Donald Trump a donné un signe de décrispation en n'écartant pas le principe d'une rencontre avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Ici même à Washington, le commandement spatial américain sera officiellement lancé aujourd'hui. Sera lors d'une cérémonie à la Maison Blanche. Cette initiative est censée renforcer les efforts américains dans l'espace Bagasikura.
Le lancement se fera en présence du président américain Donald Trump et de son vice-président Mike Pence. Le Space Command, commandement spatial, accélérera les efforts déployés depuis des décennies pour réorganiser et améliorer les capacités technologiques de l'armée américaine dans l'espace. Les États-Unis dépendent de plus en plus de satellites en orbite qui fournissent des services de communication, de navigation, de renseignement et autres. D'une importance vitale pour l'armée et l'économie nationale, ils sont pour l'heure difficiles à protéger. Selon le Pentagone, le Space Command est chargé de dissuader les conflits, de défendre la liberté d'action dans l'espace, d'intégrer des forces conjointes dans l'espace et de fournir des capacités spatiales adaptées au combat. Ces capacités incluent la communication par satellite, la navigation, l'alerte de missiles, la surveillance de l'environnement et le renseignement militaire, la surveillance et la reconnaissance. L'armée américaine avait auparavant un commandement spatial, mais celui-ci a été dissous en 2002 et ses fonctions ont été confiées à un commandement stratégique américain réorganisé. La mission principale de ce nouveau commandement reste la dissuasion contre les menaces mondiales, y compris par le maintien de l'arsenal nucléaire de l'armée américaine.
Le premier ministre italien sortant, Giuseppe Conte, a été officiellement chargé ce matin de former un nouveau gouvernement entre les sociaux-démocrates et les inclassables 5 étoiles, a annoncé le porte-parole de la présidence italienne. Le compromis entre le mouvement 5 étoiles et le parti démocrate pour former un gouvernement sous la houlette de Giuseppe Conte permet d'éviter a priori la tenue d'élections anticipées dans le pays, même si des incertitudes persistent. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.